En principe, dans nos réunions, on laisse le débat à la fin. Hein, donc, je vais demander à Paul Le Chuga d'exposer la notion de santé et territoire du point de vue du médecin de santé publique. Et puis après, il devrait nous rester à peu près trois quarts d'heure pour discuter autour de cette thématique.
Merci. Je vais prendre le micro. Merci. Donc, je m'appelle Paul Le Chuga. Je suis donc médecin inspecteur journal de santé publique pour cette région Poitou-Charentes depuis 3 ans et demi. Et j'ai eu un parcours qui est un parcours aussi de, on va dire, de médecin tropicaliste, comme on disait autrefois. Ça n'a plus grand sens aujourd'hui. Mais enfin, c'est ce qu'on disait autrefois quand on travaillait, qui a travaillé quand même à peu près une quinzaine, entre 15 et à 20 ans, dans le domaine du développement sanitaire. Alors, je vais vous faire part de ma réflexion sur les territoires de santé à partir de ces deux expériences. Mais je crois qu'elles sont riches parce qu'on va voir que cette notion de territoire est une notion finalement assez universelle. Alors, je partirai d'un postulat, qui est un postulat que je pose d'emblée. C'est que l'on donne aujourd'hui à la notion de territoire, on donne une charge conceptuelle très forte parce qu'en fait, elle est le moyen de définir un nouveau paradigme pour la santé. Voilà. Ce sera mon premier postulat. La notion de territoire n'est pas, dans mon entendement, une notion uniquement instrumentale, bien que je la pratique au quotidien, dans tous les systèmes de planification qui peuvent exister et qui se mettent aujourd'hui en place. Mais pour moi, c'est avant tout, dans l'acception des acteurs de santé, une nouvelle façon de reposer le défi de la santé publique dans ce pays. Alors, je vais m'expliquer. Il n'y a pas qu'un seul modèle de santé publique. Il y a une histoire des modèles de la santé publique. Où commence la santé publique ? Difficile à dire. On pourrait, comme Michel Foucault, la faire commencer en 1715 avec l'épidémie de peste à Marseille, qui a été l'occasion pour la monarchie absolue de créer les premiers conseils autour du roi, les premiers conseils qui ont commencé à discuter et de l'opportunité d'intervenir dans le champ de la santé, car c'était une intervention qui était considérée, ou un problème qui était considéré privé ou religieux, ou en tout cas qui n'avait pas la connotation de l'intervention publique jusqu'alors. 1771, la Société royale de médecine, là déjà c'est un système beaucoup plus élaboré. On sait que dans chaque généralité, c'est-à-dire par exemple la généralité de Poitiers avec Blossac à sa tête, on va dire, il y a un bureau qui va s'occuper des épidémies et qui va recenser donc, par exemple, les différentes fièvres qui peuvent survenir, les dysenteries, etc., qui peuvent survenir l'été dans les populations, et qui va faire des enquêtes. Les chirurgiens du roi, les médecins du roi vont faire des enquêtes dans ces généralités et vont demander l'aide, vont faire leur rapport, l'envoyer à l'Académie de médecine. Et l'Académie de médecine, évidemment, la Société royale, disait-on, la Société royale de médecine, va donner en quelque sorte les moyens de secours à cette population. C'est déjà une première forme d'intervention étatique. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs modèles qui vont se développer. Et tout au long, c'est difficile de faire une histoire généalogique, linéaire, mais on peut distinguer plusieurs modèles. Il y a, je dirais, un modèle qui va se développer sous l'influence à la fois de l'industrialisation, de l'urbanisation et des grands scandales sociaux, comme le travail des enfants, par exemple, à partir de la deuxième partie du 19e siècle, et qui va aboutir petit à petit à cette notion d'intervention sous la Troisième République naissante, de cette notion d'intervention de l'hygiène publique. Et ce modèle hygiéniste va culminer, évidemment, parce qu'il va être renforcé par tous les travaux au début du siècle, tous les travaux des pasteuriens, bien sûr, qui vont petit à petit donner une figure. C'est le moment où Charles Nicolle travaille à l'Institut Pasteur à Tunis, etc., où on va petit à petit renforcer ce modèle, qui est un modèle à la fois prescriptif, où chacun, en quelque sorte, est encouragé à avoir les bonnes conduites sociales, celles qui sont des conduites d'évitement de la maladie, et les conduites de culture de l'hygiène, et qui est aussi un modèle social. Et puis le modèle médical que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le développement de la médecine de soins, c'est un modèle que je ferai partir à partir des années 40, au moment où on va récupérer petit à petit, avec le développement de la médecine, l'institution hospitalière, où on va médicaliser une institution qui était fondamentalement une institution sociale, faite pour les pauvres, qui était un asile des pauvres, fondamentalement. L'institution hospitalière, elle se médicalise aux alentours des années 40. La guerre va être évidemment un tournant majeur. Hein, un tournant majeur, pourquoi ? Parce que on arrive la streptomycine, le médicament contre la tuberculose, contre les grands fléaux qui ont marqué justement cette époque hygiéniste et qui l'ont structuré. Et puis ensuite, tout le développement, évidemment, avec le développement économique, tout le développement de la médecine à l'américaine. Je pense souvent cette image, nos patrons qui ont fondé, on le fêtait encore il y a quelque temps avec le cinquantenaire du CHU, qui ont fondé le CHU, sont allés prendre leurs leçons dans les cliniques américaines, à la Mayo Clinic à Chicago. Moi, j'ai entendu des témoignages vivants de ces grands patrons encore, qui étaient émerveillés parce qu'ils revenaient avec la protocolisation, l'étude statistique, la notion de l'essai thérapeutique, etc. Autant de notions qui marquaient le début d'une médecine scientifique et d'une clinique rénovée. Les malades n'étaient plus... Foucault le dit déjà, l'hôpital a été un progrès. L'anatomie, pathologie, l'hôpital, c'était déjà le début de la classification nosographique. Et donc, les médecins ont structuré leur savoir. Mais là, c'est l'entrée carrément dans la puissance thérapeutique, c'est-à-dire la capacité d'intervention. Et pour mieux intervenir de façon efficace, eh bien, on classe, on trie et on développe la médecine de soins. Et évidemment, le développement économique d'après-guerre aidant, le Conseil national de la résistance avec l'entrée de toute la population progressivement avec la salarisation de la société, hein, celle qui va avoir lieu, je me rappelle quand j'étais petit, encore des commerçants qui se posaient la question pour savoir s'ils allaient rentrer dans le système de la sécurité sociale, qui se pose aujourd'hui cette question. Bon, mais dans les années 60, c'était encore comme ça. Donc petit à petit, la salarisation de la société a fait que le financement massif du système de santé a permis un développement extraordinaire. Donc une institution qui est l'hôpital public, qui va devenir l'institution de référence, l'institution phare, et qui va inspirer tout le système de santé, parce que derrière le CHU, derrière cette première ligne, dans les années 70, on va voir arriver des générations de chefs de clinique qui n'avaient plus de poste d'agrégé dans ces CHU, et qui vont coloniser petit à petit les hôpitaux qu'on appelle aujourd'hui des hôpitaux de recours, les hôpitaux de département, et qui vont y amener évidemment la technologie qu'ils ont appris auprès de leurs maîtres. On va y implanter la réanimation néonatale. Hein, rappelez-vous les livres de Minkowski, hein, que Dieu ait son âme, enfin si Dieu l'a accueilli. Mais Minkowski nous a ramené la réanimation néonatale et puis la prévention par les sages-femmes en même temps. Hein, donc c'était quand même, on avait cette façon de lier les choses était très importante et a permis le développement de disciplines nouvelles. Le nombre de spécialités a été multiplié vraiment de façon considérable. Le nombre de médecins formés de façon considérable, rappelez-vous les grandes cohortes des années 60, 1000 étudiants ou 2000 ou 3000 étudiants dans les amphithéâtres, c'était une époque où véritablement on était dans un système keynésien de bien-être, je dirais d'économie de bien-être, et on produisait du bien-être au travers d'un système qui était hospitalo-centré. Et puis, évidemment, les choses changent. D'autres modèles sont en train d'arriver. Ce système hospitalo-centré, le chômage, évidemment, puisque le financement du système était basé sur le travail, avec l'arrivée de la crise économique et du chômage de masse, le système a commencé à déraper un peu. Et on a commencé à rationaliser ce système. La carte sanitaire, dans les années 70, décrit déjà des territoires. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à dire quels sont les besoins. Vous parliez des besoins, l'autorité publique commence à les édicter et à en donner, en quelque sorte, dans une société développée, les besoins sont définis en Conseil d'État. On dit pour une population de temps, il faut tant d'équipements, il faut tant de prestations, il faut tant de types de services, etc. On commence après la carte sanitaire à raffiner un peu et à construire des systèmes de santé alors qu'on est encore dans le département. L'administration vit encore dans les départements. On commence à fabriquer des systèmes de santé régionaux. On fait les schémas régionaux. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Et petit à petit, ça a été ces éléments-là qui ont permis de mettre en place progressivement sur la totalité du territoire avec cette logique de déconcentration d'un système hospitalier parce qu'on a déconcentré le CHU, on a déconcentré l'hôpital médicalisé, mais on n'a fait que ça. À côté, on avait un système de médecine libérale qui était au fond organisé comme il a toujours été, peut-être depuis le 19e siècle, organisé grâce à une convention avec les caisses et les syndicats qui tarifaient, chaque médecin prenait sa convention et il était obligé de faire son tarif, évidemment, qui était le tarif négocié entre les syndicats et les caisses. Et voilà, mais après, au fond, accéder à un médecin, c'était accéder à la médecine. Pensait-on. On n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, on sait très bien, tous, nous le sentons, l'air du temps a changé, qu'accéder à un médecin, ce n'est plus accéder à la médecine. Il y a quelque chose qui a changé. Hein? Alors on va voir aussi, peut-être plus tard, ces enjeux de territoire, ce sont autant des enjeux de changement de la répartition de l'activité professionnelle que des changements presque d'échelle. Alors voilà, donc je voulais vous d'abord dresser ces éléments d'histoire pour vous dire que nous sommes en train de changer de paradigme. Le paradigme, au fond, la loi qui est en préparation, qui va passer bientôt au Parlement, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, il y a aussi, à côté de l'offre de soins hospitalière, il y a une offre de soins ambulatoires. Elles ne sont pas articulées. Il y a le problème de la porte de l'hôpital. Qui doit aller à l'hôpital ? Est-ce que l'hôpital, aujourd'hui, dans une société où nous allons vivre de plus en plus vieux, quelle est sa nouvelle mission ? Qu'est-ce qui apporte finalement de l'espérance de vie avant 65 ans ? Est-ce que c'est l'hôpital ou est-ce que c'est autre chose que l'hôpital ? Voilà, ça c'est un enjeu. Si l'hôpital, on le sait, on lui doit des missions très 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 importantes de soins de très haut niveau. Nous avons encore 50% des cancers à soigner que nous ne soignons pas. Nous avons encore beaucoup de maladies chroniques que nous ne jugulons pas. Donc ce sont des défis qui vont demander de forts investissements en termes de recherche, d'organisation sanitaire, de suivi. Mais pour le reste de la pathologie, de la mortalité évitable, est-ce que c'est à l'hôpital qu'on doit s'adresser ? Donc il faut, première idée, rééquilibrer notre système de santé. Avant les soins, est-ce qu'il y a avant le soin, il n'y a pas tout un secteur d'intervention ? Bien sûr, il y a la prévention, c'est-à-dire le moment où on n'est pas malade, hein, mais où on va peut-être par l'activité de dépistage, par l'activité de suivi, parce qu'on connaît mieux ses caractéristiques génétiques, hein, j'anticipe, etc., etc., on va peut-être avoir des stratégies individuelles pour gérer sa santé avant le soin, avant la rupture phénoménologique et la maladie, avant l'accident. Voyez ? Donc ça, déjà, ça suppose une autre logique. On n'est plus dans une logique de demande, on met des médecins en place, on solvabilise la population, on conditionne un accès, et puis le médecin apporte toutes les réponses. On est dans une autre logique, qui est une logique beaucoup plus complexe. Et puis au-delà, on peut gérer des risques. C'est-à-dire non seulement la prévention, ça concerne les populations, mais on peut gérer aussi des risques, c'est-à-dire des possibilités d'occurrence de phénomènes critiques qui peuvent concerner de larges parties de la population et qui peuvent s'abattre à un moment donné sur le pays, etc. Il faut en faire le recensement et tout. Après l'hôpital, on peut gérer également tout le secteur médico-social. Et puis tout ça doit être géré de façon systémique. Car le paradigme dominant, monsieur, vous l'avez dit, c'est la notion de système. C'est cette notion qui naît... en gros, avec la Deuxième Guerre mondiale, hein, von Bertrand Lanfy, etc., en fait, tous ces écrits-là, c'est toute cette notion de réflexion, cette pensée systémique est une pensée stratégique, hein, où un système input, une boîte noire, un output, hein, on n'essaye pas d'avoir une compréhension mécaniste fine, on essaye simplement d'avoir une compréhension globale, complexe des choses. Hein, voilà. Et donc, on est rentré dans cette analyse du système de santé. Alors, moi, je voudrais vous montrer qu'il y a, au fond, trois gradients dans le territoire. Trois notions. Il y a un premier territoire que je mettrai carrément sous l'égide de la géographie de la santé. C'est celui que j'ai appris justement dans les endémies tropicales avec des géographes. Je pense aux géographes Herouet, à M. Gallet, etc. Quand je travaillais avec eux en Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans des territoires qui sont marqués par des déterminants naturels. Et je vous en donner 5 exemples. Très facile. Ce sont les déterminants naturels. C'est la nature qui parle, beaucoup plus que l'organisation institutionnelle des hommes, beaucoup plus que l'autorité, beaucoup plus que l'organisation humaine. L'organisation humaine et l'autorité n'y est pas absente. Ce serait une erreur de croire ça. Ce serait même un fantasme européen de penser que sous les tropiques, il n'y a que la nature. Alors qu'en fait, on n'y trouve que la culture. Bon, mais je dirais que ce sont Puis deuxième élément, si vous voulez, vous avez le territoire, ce que j'appellerais d'autorité. Alors, l'autorité, elle a pour but, pour moi, de nier le territoire, d'une certaine façon. De le rendre tellement équicorrespondant, si je puis dire, ou équitable, en quelque sorte, ou égalitaire, je dirais, qu'elle le nie d'une certaine façon. Et donc, on va voir que l'autorité, alors ça, c'est une très vieille tradition, lire l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, on y trouve à peu près tout pour penser cette notion de territoire. C'est évidemment des territoires à l'infini. Et là, on va voir, on peut partir du territoire subnational jusqu'au territoire interrégional, puis ensuite le territoire régional, puis ensuite le territoire départemental, et puis ensuite, etc. Et puis on va vers une pluie, évidemment, toujours en rapport avec les échelles d'intervention, avec les techniques, avec les connaissances mises en œuvre, avec l'efficacité souhaitée, etc. On peut aller très, 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 très loin. Donc on l'évoquera. Et puis, troisièmement, je dirais, Quand on a dépassé la nature, quand on a dépassé le pouvoir, reste ce que j'appelle le territoire, et vous l'avez aussi mentionné, le territoire qui se crée, le territoire d'initiative, le territoire de développement, c'est-à-dire celui qui n'est pas encore pris dans le champ du pouvoir et qui n'est pas du tout déterminé par la nature. Et c'est ce que j'appelle le territoire d'initiative. Alors ce territoire-là, il dépend essentiellement des acteurs. Nous sommes dans une sorte de territoire sociologique. C'est là que s'inventent les réseaux, les correspondances, les liens, les coopérations passagères entre des métiers différents, etc. C'est là que se créent des formes qui sont à la fois éphémères et qui en même temps nourrissent tout ce système du territoire d'autorité. Dès que ces formes sont un peu stabilisées, vous avez connu ça un peu quand vous gériez les expériences du fixe, eh bien, on les fait passer, on essaye de les reproduire, de les faire passer à l'autorité. Alors, première partie, je dirais les cinq exemples de territoires déterminés par la nature. Alors, nature, une nature aménagée, on va dire, hein, mais on va dire que c'est encore la nature. La route, l'épidémie de sida, à VIH1 et VIH2, est la route qui joint Niamey à Abidjan. Si vous partez à Niamey, vous êtes dans une zone totalement sahélienne, subdésertique, et que vous arrivez à Abidjan par une route qui va franchir donc le Burkina Faso, qui va passer par Ouagadougou, Bourbouille du Lasso, qui va descendre, et on va arriver à Banfora, puis ensuite on arrive à Korogo, on continue à Bouaké, puis ensuite on arrive à Abidjan. Eh bien, si vous passez sur cette route, vous allez, et que vous faites l'analyse de la prévalence du VIH dans les années, on va dire, 90, qu'est-ce que vous trouviez? Vous trouviez des prévalences qui augmentaient régulièrement, mais presque de façon mécanique, hein, avec la concentration directement liée à la concentration de poids lourds qui circulaient sur la route, donc de trafic, de densité de trafic, qui allait donc de Niamey jusqu'à Abidjan. Et vous trouviez également une sorte de gradient qui partait de la route, c'est-à-dire de la concentration de la population qui, évidemment, l'activité tenait son activité économique au bord de la route vers l'intérieur de la Terre. Et c'était très clair. Donc, vous aviez un double gradient, un gradient nord-sud, en quelque sorte, tout au long de la route, et un gradient est-ouest. Et quand on voulait travailler sur la transmission du VIH et qu'on voulait faire des campagnes d'éducation, qu'on voulait intervenir, à l'époque nous avions guère que un antirétroviral, c'est tout, et personne ne pouvait l'acheter, eh bien il fallait cibler notre action très précisément sur les gradients les plus forts. Donc nous savions où aller. Voilà un espace qui avait été structuré parce que la transmission sexuelle, évidemment, se passait sur la route au gré des échanges, du commerce, des chargements, des camions qui stationnaient dans certaines zones, etc. Et on avait structuré au bout de 4-5 ans, pour les deux transmissions, VIH1 et VIH2, une sorte de territoire épidémiologique, d'air épidémiologique, mais qui était parfaitement prévisible. Premier point. Deuxième point, la ceinture de la méningite. Vous savez, en Afrique, il y a une géographie zonale, c'est-à-dire vous avez un couvert végétal qui va d'est en ouest et qui est à peu près toujours le même. Et puis vous descendez, vous allez du désert, comme ça, jusqu'à la forêt, vous retrouvez le désert, et puis voilà. C'est une sorte de géographie en bande, comme ça. Eh bien, vous avez, à l'époque, c'est-à-dire au moment où l'harmattan se lève dans les zones désertiques, un vent qui est chargé de poussière et qui provoque des troubles qui sont des troubles oropharyngés, hein, souvent chez les enfants, et dans certaines zones, parce que les gens vivent les uns sur les autres, en quelque sorte, donc il y a un passage des germes qui deviennent des germes pathogènes, vous avez entre deux bandes de latitude, très exactement, vous avez des épidémies de méningite qui se répandent d'est en ouest. On avait fait même une étude où on prenait des petits degrés carrés, où on essayait de mettre tous les cas qui se produisaient aux différents moments de l'année, et on avait fait presque, comme ce qu'on appelle en statistique, un modèle de percolation. C'est-à-dire qu'on voyait exactement par où passait la méningite et comment elle se répartissait d'un degré à l'autre. Ça, c'était encore un autre modèle qui était un modèle très lié au territoire. Hors de cette ceinture qui a été décrite par cet endémiste qui s'appelait la Pessonie, qui a terminé sa vie en Bretagne en gardant des chèvres, mais c'était un sacré personnage, je vous assure, eh bien, hors de cette ceinture, il n'y avait plus de méningite cérébro-spinale. Voilà, donc on savait où il fallait vacciner exactement, et quand l'épidémie commençait à tel moment, on savait où il fallait aller l'attendre, d'une certaine façon. Le territoire était prévisible, ce territoire naturel. Troisième exemple, un modèle tout à fait local, la bilharziose. Vous savez, la bilharziose, c'est les urines qui sont chargées de sang. Vous voyez ça, tous les enfants qui ont entre 5, 6 ans et puis 15 ans, ça dans tous les villages africains. Hein. Et puis vous les voyez aussi, quand vous baladez au bord des routes, se baigner dans les mares, là, hein, dans les marigots, ce qu'on appelle les marigots, où il y a une eau un peu terreuse et où tous les gosses plongent. Eh bien, si vous allez travailler, si vous allez chercher dans les bois de ces mares, dans ces bois pourris, vous allez trouver des petits escargots, hein, qui sont du Bionfalaria ou des Bulinus, Troncatus. Bon. Et ces petits escargots vont transmettre une parasitose, hein, vont héberger en quelque sorte un hôte intermédiaire qui, au moment où il fait le plus de soleil, au moment où les gosses donc, vont se baigner parce qu'il fait très chaud, vont pénétrer, vont percer la peau, une fourcocercaire va percer la peau et va pénétrer dans tout le système veineux, lymphatique, etc., et va coloniser jusqu'à pondre, jusqu'à ce que les vers adultes se développent, et puis pondent dans la cavité abdominale des œufs qui vont aller vers la vessie, vers la lumière de la vessie, et vont être urinés en quelque sorte par les jeunes. Ce sont des œufs avec un petit éperon terminal, schistosoma hématobium, le ver égyptien connu depuis la plus haute antiquité, et le cycle va se reproduire comme ça. Et bien ça, c'est un modèle épidémiologique qui est totalement statique et qui est lié simplement au territoire, au village, à la communauté et aux marigots. Et on revenait, on avait des points de repère comme ça, et on revenait étudier l'endémie et la compétition entre les hôtes intermédiaires de ces bilharziose, parce qu'il y avait un autre parasite qui venait d'Amérique, qu'on appelle Schistosoma mansoni, qui était en train de coloniser la zone africaine, et on étudiait les compétitions entre ces hôtes. Là encore une fois, vous avez un territoire qui est marqué, qui est déterminé, à la fois par une pratique de la population, une coutume en quelque sorte, et puis un contact qui est un contact avec la nature très fort. Autre exemple que je vous donnerai, l'oncocercose. Vous avez entendu parler de ça, la rivière, la cécité des rivières. Eh bien, l'oncocercose, c'est une maladie qui est totalement liée à un bassin hydrographique, qui est un bassin simplement des rivières d'Afrique de l'Ouest. Leur niveau, en quelque sorte, et leur niveau de débit va conditionner la possibilité pour des simili de pondre dans les branchages de ces rivières et va conditionner la transmission. Eh bien, il y a tout un programme qui a coûté des centaines de millions de dollars et qui a été basé uniquement sur ce système-là. Avec des balises Argos plongées dans les rivières, eh bien, on savait mesurer les débits. Et dès que les débits dépassaient un certain niveau, on savait qu'il y avait de la transmission. Voilà des exemples où là, le territoire peut être marqué, mais il peut être marqué par un déterminant naturel. Et ce déterminant naturel, évidemment, il interfère avec la population, avec l'activité de la population. Mais c'est une activité d'exploitation directe de la nature. Voilà, premier exemple. Nous passons maintenant dans les territoires de santé, où là, nous sommes beaucoup plus loin de la nature, mais nous sommes dans l'autorité de l'État, effectivement, ou dans l'autorité décisionnelle, on va dire, ce n'est pas forcément celle de l'État. Notre organisation sanitaire, elle est faite dans des territoires. Je dirais que le premier territoire, le territoire qui est celui en fait de la réponse à tous les problèmes de santé, c'est la région. Nous avons conçu depuis des décennies des espèces de systèmes de santé pyramidés, gradués, qui vont en quelque sorte, j'allais dire, de la réponse la plus élémentaire jusqu'à la réponse la plus sophistiquée, dans la région. Et toutes, c'était le postulat qui avait encore cours il y a quelques années, toutes les réponses doivent se trouver dans la région. Et donc, nous avions des territoires qui étaient équivalents, qui étaient équitables, hein, entre les différentes régions de France. Voilà. Alors, ce postulat est en train d'être petit à petit battu en brèche. Il y a un nouveau territoire qui est apparu pour les techniques les plus avancées. En fait, déjà, il était apparu, rappelez-vous, au moment du scandale du sang contaminé, quand on avait fait la sécurité transfusionnelle. On avait traité beaucoup de territoires régionaux, on les avait couplés. On avait donc, d'une certaine façon, transgressé les limites de l'autorité. Pourquoi ? Parce que, là encore une fois, compétition entre les échelles d'efficacité et l'échelle économique. L'efficacité technique commande des investissements, et ces investissements commandent une échelle d'intervention. Et donc, on est obligé de coupler les territoires, au territoire interrégional pour la transfusion. Deuxièmement, les activités, petit à petit, elles aussi se développent. Nous avions un SROSS, les premières générations de SROSS, c'était au fond, dans chaque région, il y aura tant d'équipements lourds, il y aura tant d'établissements si vous voulez, de recours, et on organisera le recours par une graduation, en allant, je dirais, de la réponse la plus simple à la réponse la plus, on va dire, la plus dense techniquement. Aujourd'hui, les choses ont encore changé. C'est-à-dire que le territoire de la région dans laquelle est organisée la réponse sanitaire est un territoire d'activité. Il y a aujourd'hui 19 activités que le SROSS recense. Et ces activités, insuffisance rénale, les problèmes d'intervention en cardiologie interventionnelle, etc. Bon, il y a énormément d'activités, 19 pour l'instant, ces activités vont se multiplier et vont permettre d'organiser en quelque sorte la ressource. Bon. Mais cela ne suffit pas encore. Il y a des territoires qui sont des territoires de recours. Nous avons ici, dans cette région, 5 territoires de recours. Les territoires de recours, c'est un territoire où on doit pouvoir trouver, c'est un peu la définition, je dirais, du besoin de santé, mais alors vu au travers de la départementalisation, on doit pouvoir trouver, à une distance qui est relativement convenable, c'est-à-dire qui permet d'éviter de faire de longs séjours, je dirais, on doit pouvoir trouver une réponse à peu près tous les problèmes de santé. Et les territoires de recours, ce sont des territoires de plateau technique. On doit pouvoir y faire des diagnostics, on doit pouvoir y faire une médecine d'orientation également, mais pratiquement sur le dernier recours. Et puis ensuite, on va encore descendre. On va trouver des territoires qui vont être des territoires maintenant, qui vont se décliner et qui vont correspondre à des activités, mais ce sont des activités qui sont de plus en plus parcellaires. Vous avez par exemple le territoire de la permanence des soins. Ce territoire de la permanence des soins, on sait, dans les départements, il va être sectorisé. Cette sectorisation, elle va dépendre de quoi ? Bien de la densité, de la répartition, de la demande d'urgence également. Parce que beaucoup de secteurs se sont agrandis parce que la demande d'urgence, finalement, était beaucoup plus faible qu'on ne le pensait. Hein ? Donc, on organise une demande en allant de plus en plus bas. On va trouver des réseaux qui vont être des réseaux de recours, certes, mais aussi des réseaux de proximité, en gérontologie, en cancérologie, etc. On va trouver donc des réseaux qui sont donc des organisations interprofessionnelles qui sont gérées en fonction d'une demande locale, mais qui n'ont pas vocation, au départ, à s'implanter partout, être une réponse systématique. C'est une réponse, déjà, qui est un peu à cheval entre l'initiative, je dirais, et la nécessité du recours. Et puis, petit à petit, on va descendre et on va trouver le territoire, ce que j'appelle le territoire d'initiative. Et ce territoire d'initiative, c'est celui, vraisemblablement, dans lequel les métiers se refondent. C'est un creuset. C'est un creuset pourquoi ? Parce que il implique des visions professionnelles, des formes d'organisation, des formes d'autorité, si vous voulez, qui ne sont plus contrôlées dans un système qui est un système réglementaire. C'est un système où, au fond, l'initiative prend le pas. Je dirais que c'est le système de développement. Hein. Il y a un problème dans telle et telle commune, soit par son épidémiologie, soit par sa géographie, soit par son manque de recours. Quelles réponses on peut y apporter ? Et là, on essaye d'apporter des réponses qu'on va petit à petit valider et qu'on va essayer ensuite, si elles franchissent le cap, de reproduire. Donc je dirais qu'au fond, il y aura, et je pense que la loi va consacrer petit à petit, en tout cas l'organisation sanitaire, va consacrer petit à petit ces trois niveaux. Il y aura des territoires qui seront des territoires régionaux qui seront les plus stables, vraisemblablement, et deux encadrés par deux formes de territoires instables. Le territoire suprarégional, c'est le territoire des maladies rares, c'est le territoire de la recherche, c'est le territoire, je dirais, des grandes problématiques de santé, mais pour lesquelles nous sommes en échec, et qui supposent donc des référenciations, qui supposent une déterritorialisation, qui ne peuvent pas être le lieu, je dirais, d'une compétence partagée dans toutes les régions. Eh bien, ce territoire va devoir se développer, et pour qu'il se développe, il faut que le territoire régional soit relativement stabilisé, que les missions de l'hôpital régional soient relativement stabilisées. Et puis, de l'autre côté, il y a un territoire d'initiative et de développement, qui est celui, encore une fois, des nouveaux métiers de la santé, des nouveaux métiers de la prévention, et également des organisations que les acteurs conduiront en fonction, je dirais, des besoins. Et là, encore une fois, c'est une autre forme de, je dirais, nous passons le cap de l'autorité et nous arrivons à une forme de démocratie qui est une démocratie sanitaire beaucoup plus directe. Donc il faudra que les institutions qui se mettront en place petit à petit puissent rendre compte de ces trois logiques. Une logique de recherche qui est désormais une logique nationale, une logique de soins pyramidés, gradués, qui permet, je dirais, d'envisager les 95% des réponses au spectre de morbidité et de mortalité, et une logique de production et d'invention sociale qui permet de renouveler les métiers et les problématiques. Voilà, je pense qu'avec ces éléments...